Radio Caravane.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Les acrobates de l'audio.
Les acrobates de l'audio.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Radio Caravane est de retour pour une nouvelle émission sur la place des femmes dans le cirque. Mais où sont les femmes ?
Même si elles représentent la moitié des professionnels du secteur du cirque, elles sont toujours sous-représentées dans les postes clés et même sur scène.
Pour nous en parler, nous avons reçu des créatrices, des femmes engagées et impliquées. Pour commencer, on écoute Fanny Sanglard, étudiante en licence professionnelle en gestion de projet, développement cirque et danse de l'Université Toulouse Jean Jaurès, qui a co-animé la journée collective de femmes le 10 avril 2021.
Bonjour, je suis Leslie.
Bonjour, je suis Otman.
Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Fanny, je suis étudiante en licence pro à l'Université Jean Jaurès.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos études ?
Je suis en licence professionnelle gestion de structures artistiques et culturelles à l'Université Toulouse Jean Jaurès, du coup, de Toulouse. Et en fait, c'est une année de licence qui se compose en deux parties. La première, ça va être des cours et en temps normal... aller voir énormément de spectacles, mais c'est très très condensé, donc c'est ça de septembre à janvier. Et ensuite, on a un stage de 4 mois minimum à effectuer pour valider notre licence. Et donc ça nous prépare à tous les métiers de l'administration dans la culture, que ce soit administratrice, comptable, communication.
Pouvez-vous nous présenter l'événement Collectif du Cirque ?
Alors Collectif du Cirque, c'est un événement réalisé dans le cadre de notre projet tutoré, du coup, pour ma licence. On est réunis avec deux autres étudiantes, Chloé et Amélie, et nous avons décidé de mettre en avant les circassiennes et les collectifs de femmes dans le cirque.
Comment vous êtes-vous adaptée à la crise sanitaire ?
Alors ça a été très compliqué pour nous parce que bien sûr on avait absolument l'envie de faire cet événement présentiel. Et ensuite, on a organisé tout notre événement comme s'il allait être réalisé en présentiel, donc avec la jauge imposée par la grainerie, les mesures sanitaires nécessaires. Et avec les dernières annonces gouvernementales, on a décidé de le passer en distanciel, donc via Zoom. Et comme ça, ça va nous permettre de toucher un plus large public et d'être plus à l'aise par rapport aux mesures sanitaires.
Pourquoi vous êtes intéressée à la place de la femme dans le milieu du cirque ?
Alors en fait, c'est parti d'une problématique un petit peu commune. Donc pour créer nos groupes de projets, on s'est réunis un petit peu par centre d'intérêt. Donc nous, c'était la place de la femme. Mais on se demandait la place de la femme où ? Dans le milieu artistique, dans le milieu de la danse, dans le milieu du cirque. Et en fait, le milieu du cirque nous a touchés plus personnellement du fait que certaines de mon groupe sont plus sensibilisées au cirque. Et on s'est dit qu'il y avait un vrai travail là-dessus, de vraies questions à se poser. Et donc on est parti là-dessus.
Comment pensez-vous que la place de la femme dans le milieu du cirque a évolué ?
Alors en bien, bien sûr, mais je pense que en fonction des ambitions de chacune, il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau de leur représentation ou au niveau de leurs opportunités, que ce soit dans le monde artistique ou dans le monde plus administratif.
Que pensez-vous de l'inégalité entre circassiens et circassiennes ?
Je trouve ça dommage, bien sûr, comme toute inégalité. Mais en même temps, ça permet un travail très important et une solidarité, que ce soit entre circassiennes, entre circassiens et même les deux, en fait, un engagement de la part des circassiens.
La parité dans la culture, pour vous, ce sont que des mots ou des actes ?
Je pense qu'on est petit à petit en train de tendre vers plus de mise en place de la parité, mais que ça reste encore compliqué du fait de notre culture et de notre société, tout simplement. Mais que petit à petit, malgré tout, il y a quand même des efforts notables.
Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être fait de plus d'après vous ?
Déjà, laisser autant d'opportunités à quelques personnes que ce soit, féminin ou masculin. Et voilà, que ce soit dans la mise en avant dans les programmations, pour obtenir un poste dans l'univers du cirque, pour les artistes et dans les créations.
Pourriez-vous nous parler avec plus de détails de cette journée du 10 avril ?
Alors, la journée du 10 avril, du coup, s'inscrit dans l'événement créatrice, du coup, de la grainerie. Et nous, on a décidé de se rattacher un petit peu plus à l'événement, à la veillée des tenaces qui a lieu donc le vendredi soir, le 9 avril. Et en fait, On a créé du coup cette matinée qui au départ devait être composée d'un petit déjeuner afin de mettre en avant les circassiennes et les collectifs de femmes. Nos partenaires principaux sont donc la Grainerie, les Tenaces, mais aussi l'INA, car ils nous ont permis d'accéder à des archives et donc qu'on pourra diffuser lors de cet événement, donc cette fois-ci en visio, en Zoom.
D'accord, merci.
Merci.
Avec plaisir.
Et maintenant, écoutons Claire Noutot et Laure Boncillon, deux artistes de la compagnie Mesdemoiselles, qui nous présentent leur dernière création, Memento.
Aujourd'hui, nous accueillons deux artistes de renommée. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors moi, je m'appelle Claire Noutot et je suis co-directrice artistique de la compagnie Mesdemoiselles.
Et moi, c'est Laure Boncillon, pareil, co-directrice de la compagnie Mesdemoiselles.
Quels sont vos rôles dans la compagnie Mesdemoiselles ?
Alors déjà, on est artistes de cirque. Donc nous, on s'est rencontrés avec Claire il y a une quinzaine d'années à l'Académie Fratellini à Paris. On est spécialisés en aérien, on va dire. Et on est aussi comédienne, danseuse, un peu chanteuse aussi. Ça, c'est nos rôles, on va dire, dans le cirque technique. On fait aussi la mise en scène de nos spectacles. Et après, en parallèle, on a pas mal de boulot administratif, donc on appelle des structures pour nous accueillir, on fait des budgets pour créer des projets, on a aussi tout l'à côté, on n'est pas uniquement interprète, on est aussi des femmes de terrain, je dirais.
Quels sont vos moyens d'expression ?
Eh bien, comme Laure vient de le dire, à la base, on a une formation d'artiste de cirque qui est plutôt spécialisée en acrobatie aérienne, mais on fait aussi du théâtre, du chant... Voilà, on utilise toutes les formes d'art possibles quand on en a besoin pour s'exprimer.
Vous mélangez différents moyens d'expression. Pourquoi ?
Parce que nous, souvent, dans nos créations, on a des thèmes qui arrivent en improvisation et par rapport à ce qui nous arrive dans nos vies. Et donc, forcément, on ne va pas parler de la même chose quand on a 25 ans que quand on en a 30 ou 35 ou 40. Et en fonction de ce qui nous arrive et en fonction de ce qu'on a envie de raconter, on va utiliser différents arts. Là, la dernière création, Memento, par exemple, elle est avec de la terre. Elle parle du cycle vie-mort-vie et du deuil aussi, en particulier des petites morts. Et du coup, on a eu besoin pour ça de danser, pour taper le sol, taper la terre. On a eu envie de chanter pour crier la vie. On a eu envie d'écrire nos textes. Parce qu'on avait des choses à raconter assez intimes aussi et personnelles. Et par exemple, on fait une nouvelle création en 2023. Et j'imagine qu'on n'aura pas les mêmes besoins. Parce que du coup, presque 10 ans se sont écoulés. Et qu'on aura d'autres choses à dire. Et peut-être on utilisera d'autres formes d'art à ce moment-là.
Vous êtes trapéziste. Quel est le rapport au risque ?
Alors, on n'est pas trapéziste. Tout le monde pense qu'on est trapéziste. Parce que dans l'imaginaire, le cirque, en hauteur, c'est le trapèze. Eh ben non, on n'est pas trapéziste. Moi, je fais de la corde volante.
Et moi, je fais de la corde lisse. Du coup, il y a différentes façons d'aborder les aériens. Il y a les aériens qui sont plutôt en suspension, en verticalité, donc comme le trapèze fixe, la corde lisse, le tissu, le cerceau. Et puis, il y a les aériens qui sont en ballant, comme le trapèze ballant, la corde volante. Les agrès qui sont en ballant, ils sont longés. Généralement, on a une ceinture, il y a une sécurité et les aériens qui sont en suspension, généralement, ne sont pas attachés.
Après, le rapport au risque, c'est que nous, on s'entraîne depuis des années et on prend des risques. Évidemment, faire du cirque, c'est pas anodin. Après, c'est du risque mesuré. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je travaille des nouvelles figures, je les travaille beaucoup, 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 beaucoup en entraînement avant de les mettre en spectacle. Et après aussi, en vieillissant, enfin moi, en tout cas, ça me fait ça, les figures que je sens pas, je prends pas le risque de les mettre en spectacle. Parce que j'estime que le public, il n'est pas là pour avoir peur. Le public, il est là pour passer un bon moment. Et moi aussi, avant même le public, je suis là pour passer un bon moment. Et du coup, toutes les figures que j'estime sont fragiles ou que je n'ai pas la tête à les mettre ce jour-là, je ne les mets pas. Je fais vraiment les choses qui sont vraiment en sécurité. Et je pense que pour Claire, c'est un peu la même chose.
C'est pareil. Ouais.
Pourquoi avoir choisi de vous mettre en scène avec de la terre ?
C'est aussi en lien avec le précédent spectacle.
Oui, en fait, avant Memento, on a créé un spectacle qui s'appelait Loca, où on travaillait avec un énorme tas de vêtements de toutes les couleurs. Et arrivé Memento, la Terre n'est pas venue tout de suite dans la création. C'est venu plutôt assez tard. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on avait besoin d'une accumulation de matière. Et surtout que ça permettait aussi une implication du corps obligatoire. Dès qu'on met la Terre dans le spectacle, par exemple hier, c'était la première fois qu'on remettait la Terre dans le spectacle, dans les filages, depuis un an et demi. Parce que ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas joué. On a fait beaucoup de filages sans la Terre. Et hier, on l'a remise. Et tout de suite, le corps, il est impliqué parce qu'on a de la terre dans les yeux, on en mange, on en a dans les oreilles, ça glisse. Donc forcément, le corps, il réagit déjà différemment et déjà de manière très juste par rapport à ce qu'il est en train de vivre au plateau. Et on aime bien ça. Puis après, il y avait une question de sens par rapport au cycle de la vie, le vie-mort-vie, le deuil.
Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous avez choisi de faire votre création entre femmes? Si oui, lesquelles?
Alors, c'est une très très bonne question. Évidemment, on s'appelle la compagnie Mesdemoiselles. On ne s'appelle pas la compagnie Gentilhomme. Et nous, on s'est rencontrés avec Claire il y a du coup voilà, 15 ans à l'école. On a monté la compagnie. On était trois femmes au départ, c'est vrai. Trois femmes plutôt costauds. Faut être costaud pour travailler dans la rue, monter des portiques de 9 mètres, les démonter, planter des pinces, sortir des pinces. Et on a été en effet confrontés aussi à pas mal d'hommes en technique, en rue, auxquels on devait faire face et auxquels on devait toujours un peu prouver qu'on avait notre place et que oui, on méritait aussi, nous, de faire notre montage et qu'on savait le faire, qu'on n'avait pas toujours besoin qu'on nous explique les choses. Après, c'est pas un choix, on est des femmes et on veut travailler qu'avec des femmes.
Ça
s'est fait tout seul parce que je pense qu'il y a une sensibilité des artistes avec qui on travaille. Après, par exemple, on travaille depuis, du coup, sur les deux dernières créations avec Anna von Grunigen, qui était aussi à l'école avec nous, mais avant. Et peut-être que ça aurait été un garçon et on aurait aussi travaillé avec... Enfin, c'était pas parce que c'était une femme, c'est parce que c'était elle et que c'était sa beauté et son travail. Et je pense que nous, on a aussi d'autres projets avec Claire qui sont plus gros, qui sont des cabarets, des in situ, et on travaille avec des hommes. Il n'y a aucun problème avec ça, on travaille...
Avec des personnes, des personnages.
On travaille surtout avec des qualités, en fait. Et il se trouve que là, dans nos dernières créations, ce sont des femmes, parce que je pense qu'on aborde des choses plus intimes, et cette intimité de femme, peut-être qu'on la partage mieux entre femmes. Mais ce n'est pas un choix délibéré de vouloir faire un spectacle entre femmes.
Et du coup, pour rebondir sur cette question, comment vivez-vous le fait d'être une femme dans le monde du spectacle ?
Bah plutôt bien quand même, je veux dire, on a cette chance, on est quand même dans un milieu très libre, contrairement peut-être des sociétés qui peuvent être un peu plus masculines, je pense, je sais pas moi, je vais dire des choses un peu clichés, mais peut-être dans les garages, peut-être dans des endroits de conducteurs de poids lourds, où je pense qu'il y a vraiment un énorme déséquilibre. Il y en a aussi dans le cirque, faut pas croire... Il y a beaucoup plus de compagnies de cirque qui sont dirigées par des hommes que par des femmes. Il y en a très peu par des femmes. Et c'est vrai que nous, je ne sais pas si c'est parce qu'on est des femmes ou pas, mais la compagnie a mis du temps à être légitime. La compagnie a mis du temps à présenter des projets et à tout de suite qu'on nous fasse confiance. C'est que maintenant, aujourd'hui, au bout de 12 ans, que ça y est, on nous accompagne, on a confiance en nous. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est des femmes ou pas? Je ne pourrais pas le dire comme ça. Directos, mais quand même, il y a une petite tendance où on a quand même la sensation qu'on doit faire nos preuves, un petit peu plus, quoi.
Au vu de la crise sanitaire, parce que c'est un sujet d'actualité, comment est-ce que vous voyez l'avenir?
On est un peu fatigué là, c'est vrai que, j'avoue, je suis quand même quelqu'un de très positif. Bah, l'avenir
au sens large,
franchement,
on le voit positif, on y croit. Hein.
On y croit, on a la chance d'avoir... Une compagnie qui est soutenue, qui a des projets. On s'entend très bien avec Claire, c'est comme ma sœur maintenant, je veux dire. Après là, au jour après jour, ouais, il y a un truc là, par exemple, on joue jeudi et je crois qu'on va tout donner parce qu'on n'a pas de date après, quoi, aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est épuisant parce que le corps n'est plus tout jeune, hein, faut le dire, et que c'est reprise perpétuelle. Il faut tenir le... Il faut tenir la barre, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Et pour vous maintenant, mesdames et messieurs, faites place à Marion Guyès, maîtresse de conférence de l'Université Grenoble-Alpes.
Et Sophie Antoine, militante féministe et activiste féminine, toutes les deux co-directrices de la compagnie d'Elle, qui ont organisé et animé la journée Les Tenaces du 9 avril 2021.
Nous sommes aujourd'hui à la Grainerie pour parler de la journée Les Tenaces. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bien sûr, Marion.
Donc bonjour, moi je m'appelle Marion Guyès. Donc je suis maîtresse de conférence en art du spectacle à l'Université de Grenoble, co-directrice de la compagnie d'Elle et co-fondatrice des Tenaces.
Alors moi je m'appelle Sophie Antoine. Je suis artiste et interprète au sein de la compagnie d'Elle et j'ai aussi aidé à co-fonder les Tenaces. Mais je suis une membre active et passionnée des Tenaces.
Est-ce que vous pourriez nous présenter la journée des Tenaces ?
Du coup, les Tenaces, c'est un collectif de femmes de cirque, circassiennes et des femmes des arts de la rue, qui a été créé au sein de la compagnie d'Elle. Du coup, c'est vraiment un groupe qui est inscrit dans la compagnie d'Elle et qui est porté. La plupart des Tenaces, c'est d'abord des membres de la compagnie d'Elle. Et c'est un cercle un peu plus élargi. Et nous, au sein de la compagnie d'Elle, donc on est une compagnie portée par des femmes, moi et Yael Antoine, et avec une équipe avec beaucoup d'interprètes femmes, dont Sophia. Depuis longtemps, au sein de la compagnie, on se pose beaucoup de questions sur les questions de féministes, la place des femmes dans le cirque et comment développer nos carrières, avoir une place, tout ça. Et on constate des inégalités dans le cirque, on le constate, on le vit aussi, on l'a vécu nous en tant qu'artistes. Et c'est de là qu'est partie la volonté de se rassembler en fait, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait pas mal d'artistes qui se posaient beaucoup de questions sur tout ça aussi. Et du coup, on a décidé de se fédérer pour parler de tout ça ensemble et trouver des moyens de déjà pas être seul et trouver des moyens d'agir. Et cette démarche-là, elle s'est traduite d'abord par une présence sur les réseaux sociaux dont je pense Sophia pourra parler, et par la volonté de se rassembler ici à la Grainerie et d'organiser des journées comme ça, qu'on appelait au départ des journées de rassemblement des Tenaces, où le but était d'ouvrir et de partager les réflexions qu'on avait nous au sein du groupe des Tenaces et de la compagnie d'Elle à nos collègues artistes femmes des arts du cirque et de la rue.
Comment est-ce que vous avez choisi le nom Les Tenaces ?
À la base, c'est lié à une pratique circassienne. C'est des femmes qui lâchent rien, qui tiennent sur la corde, qui tiennent sur un trapèze, qui tiennent sur leurs mains. Et donc, du coup, c'est de là qu'est venue l'idée des Tenaces. Une circassienne, elle lâche rien, elle tient, coûte que coûte.
Ouais, le cirque, c'est vraiment quelque chose qui demande de la ténacité et aussi se faire une place dans ce milieu. Pour travailler à différents postes, ça demande beaucoup de ténacité, donc on s'est dit on va appeler ça les Tenaces.
Sophia, du coup, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans cette journée ?
Alors, mon rôle, ça a été d'une part de dialoguer autour de la création de cette journée, du contenu. Je fais aussi un atelier où je vais partager une pratique, alors qui n'est pas circassienne, mais qui est quelque part une pratique d'autodéfense virtuelle, en fait, et qui invite les femmes et les personnes qui vont participer à mon atelier d'utiliser les réseaux sociaux pour faire levier, pour se faire entendre, pour se rendre visible. Et là, pour le coup, je vais surtout cibler sur les violences sexistes et sexuelles, puisque je vais, via ma pratique et via mon expérience, expliquer que parfois, il suffit d'un tweet pour sauver une vie.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport justement aux réseaux sociaux, vous plus personnellement ?
J'ai un rapport passionné aux réseaux sociaux. Contrairement aux personnes qui se positionnent contre, moi, je suis dans une espèce de fascination pour tout ce langage, pour tous ces leviers, pour tous ces protocoles, pour toute cette inventivité qui se déploie sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'il y a des dérives, et comme partout, dans tous les milieux, il y a des dérives, et les réseaux sociaux, c'est un boulevard, évidemment. Mais j'en vois ici énormément de bienfaits. Je vois énormément de bienveillance, je vois énormément d'entraide, je vois énormément de sororité sur les réseaux sociaux. Et surtout, comme je vais le démontrer cet après-midi, je montre aussi que via les réseaux sociaux, on peut changer les récits, c'est-à-dire qu'on peut libérer des paroles, on peut créer des changements en profondeur au niveau de la société.
Et comment en vient-on à utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer les violences faites aux femmes ?
Alors moi, j'utilise les réseaux sociaux d'une part pour donner de la visibilité à la parole des femmes. J'utilise les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, interpeller. Et je me suis retrouvée à utiliser les réseaux sociaux par désespoir dans un premier temps, parce que j'ai dû agir suite à des violences que subissait ma voisine de palier. La police est venue faire un constat, juste vérifier l'identité de la victime et repartir en lui souhaitant un bon week-end. Et donc, comme les cris et les coups reprenaient de plus belle et que la police a refusé de revenir une seconde fois, je me suis tournée sur les réseaux sociaux pour lancer un SOS et j'ai fait le buzz, c'est-à-dire que j'ai fait la une de tous les médias et j'ai rendu visibles les violences que subissait ma voisine, mais pas que. En réalité, en donnant un porte-voix à ce que subissait ma voisine, j'ai réveillé la douleur et les coups que subissaient d'autres femmes, et d'autres femmes m'ont interpellée pour que je puisse les aider. Voilà. Et donc je parle aussi dans mon atelier d'une femme que j'ai aidée qui s'appelle Laura Rapp, pour qui j'ai tweeté et qui aujourd'hui a fait la une des médias et sur tous les plateaux télé pour parler des violences qu'elle a subies. Et grâce au tweet qu'on a lancé, en moins d'une semaine, son conjoint qui avait été remis en liberté a tout de suite été réincarcéré. Donc il a fallu d'un tweet, bien sûr, des millions de vues. Aujourd'hui, cette femme, elle a entendu, elle a écouté, elle a écrit un livre. Il y a une fiction, un documentaire qui vont sortir sur son histoire. Donc des fois, quelques mots, ça résonne.
Est-ce que vous savez pourquoi Twitter est si efficace pour ces pratiques-là?
Parce que c'est comme un téléphone en lien direct avec la Russie ou la Maison-Blanche. C'est-à-dire que via Twitter, je peux tout de suite interpeller un procureur, un juge. Et en fait, comme j'ai une communauté qui me suit et qui me relaie, ils ont très vite accès à mes tweets et à mon insurrection. Donc, je peux interpeller des personnes que je ne pourrais pas associer à mon combat ou toucher autrement que par le biais de Twitter.
Quelle est la place de la femme dans le milieu du cirque ? Autant d'un accès à l'emploi des femmes, ou s'il y a une différence de représentation des femmes sur la scène.
Il y a plein de femmes artistes de cirque, c'est un milieu artistique mixte, il y a vraiment autant, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, il y a plein de disciplines, une variété, je suis vraiment convaincue que le cirque est un art où chacune peut trouver sa place, son agrès, ses objets, sa singularité artistique, du clown à l'acrobatie, voilà, il y a vraiment... Des tas d'approches, et il y a vraiment des cirques, donc des femmes dans, et qui font des cirques. Voilà, quand on commence à prendre les chiffres, et les derniers frais que j'ai, c'est ceux qui ont été, que j'ai pas là avec moi, mais que je peux vous donner si ça vous intéresse, c'est ceux qui ont été faits par HF Auvergne-Rhône-Alpes, qui montrent notamment comment il y a un écart qui se creuse dans le nombre de femmes du secteur amateur au poste à responsabilité. Alors, c'est une étude qui est sur les arts en général et pas spécifiquement sur le cirque. Mais c'est vrai qu'en cirque, on retrouve ces chiffres-là où il y a énormément de femmes dans les milieux en activité amateur, loisirs. Et puis dans les écoles de cirque, c'est globalement assez mixte, même si dans certaines promos, ça peut être très inégal. Et après, par contre, quand on commence à regarder, et après ça change un peu parce que, voilà, ces dernières années, mais quand on commence à regarder les distributions des spectacles, et notamment dans les festivals... les plus reconnus, on voit de moins en moins de femmes. Et les Tenaces, on a beaucoup fait ça aussi au départ, tout simplement compter le nombre d'artistes interprètes dans les festivals. Et on prenait les distributions et on comptait le nombre d'hommes, de femmes. Et bon, alors là, je parle des premiers comptages qu'on a fait, ça donnait des festivals où on pouvait avoir sur une cinquantaine d'artistes au plateau, on avait 10 femmes et 40 hommes, quoi. Voilà, ce genre de chiffres-là, ça change parce qu'il y a une impulsion ministérielle qui pousse vers l'égalité, une parité dans ces milieux-là. Donc, et puis les directeurs, directrices de festivals font plus attention à ça, mais voilà, il faut rester vigilant sur ça. Et par contre, donc sur les interprètes, ça évolue un peu. Mais c'est vrai que sur les directions de compagnie, ça reste aussi, voilà, plus on monte dans les postes à responsabilité, la hauteur des subventions, ça reste très, très inégal. Et c'est tout, sur tous ces aspects-là qu'il y a des efforts à faire. Du coup, la place des femmes dans le cirque, elle existe, mais on a besoin de plus de reconnaissance et de nous faire confiance, quoi, dans ces métiers-là. Après, c'est vrai que si on passe aussi sur la question des représentations, il y a aussi donc quelle image des femmes on donne sur les scènes circassiennes. Ça, c'est à double tranchant parce que, encore une fois, pour moi, le cirque, c'est un espace qui a une capacité d'émancipation immense où on peut aller chercher des représentations qui vont bousculer un peu les stéréotypes avec des femmes très musclées, des représentations de plein de modèles de femmes et de féminité. Et en même temps, on peut tout aussi bien retomber dans des stéréotypes les plus sexistes et violents, quoi. Il y a les deux aspects et il faut qu'on arrive à donner plus de place aux représentations. Mais du coup, ça, pour comprendre ça, c'est aussi comprendre ces représentations et qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi il y a des habitudes de costumes, pourquoi il y a des habitudes d'avoir des distributions plutôt masculines avec une seule femme, et des critères de qu'est-ce qu'est le cirque tout simplement aussi, et comment on choisit avec qui on travaille. Et c'est un peu toutes ces questions-là qu'on se pose au sein des Tenaces, avec qui on choisit, et du coup, nous aussi, de nous mettre en... de nous rassembler pour travailler ensemble.
Et pourquoi ces questions, elles sont en ce moment sur le devant de la scène ?
Alors, je pense pas que... Je me permets, hein, Marion, mais je pense pas qu'elles sont maintenant sur le devant de la scène, quand même. Il y a eu le rapport Rennes-Pratt qui s'intitulait tout bêtement « Où sont les femmes ?» Voilà, donc c'était un constat terrible en disant que les femmes dans le secteur artistique étaient invisibles, on ne les voyait pas.
Qui date d'il y a plus de 10 ans.
Oui, il y a rapport, plus de 10 ans, ouais. Et puis après, il y a quand même, il y a un peu plus de 3 ans, il y a le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui est sorti et qui faisait un constat tout aussi alarmant. Donc en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est devant, sur le devant de la scène, en fait. C'est quelque chose, en fait, c'est un constat, c'est une réalité. Qu'on en prenne conscience ou pas, qu'on ait une volonté de changer les choses ou pas, en tout cas, c'est là, c'est prégnant. Aujourd'hui, dans les politiques publiques, grâce au mouvement MeToo, il y a une véritable volonté en façade, je dirais, de s'intéresser à des problématiques féministes et d'égalité femmes-hommes. Ça reste quand même clientéliste et politique, bien souvent. Mais en tout cas, il y a quand même une logique de quota qui se met en place. Il y a quand même ces problématiques-là qui sont posées, qui sont sur le devant de la scène, qui sont questionnées par les médias, dont s'approprient aussi les politiques, puisque vous avez vu aux dernières municipales, tous les politiques s'affichaient sur une posture contre les violences faites aux femmes. Les féministes font tellement de bruit, et puis avec le mouvement MeToo, il y a quelque chose qui a changé, en fait, dans la prise en compte d'une certaine réalité.
Moi, je veux bien compléter ce que tu dis, au sein du cirque aussi. Mmh. Et bon, après, c'est pas juste le cirque, et je pense que c'est aussi lié à la période qu'on traverse, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les artistes femmes, on a beaucoup plus conscience des freins structurels de nos carrières et tout ça. Du coup, ce qui fait qu'on va plus en parler aussi, c'est pas juste un constat au niveau des institutions et tout ça, c'est aussi chacune, en tant que femme et artiste, on a une meilleure conscience de ça, ce qui fait que ça prend plus de place, ça devient c'est quelque chose dont on parle plus facilement, où il y a plus de reconnaissance de ça qu'il y a peut-être quelques années où quand moi je suis sortie d'école, c'est des choses, je sentais les freins mais je les comprenais pas, quoi. Mmh. Et alors que j'ai l'impression que les artistes qui sortent aujourd'hui et les jeunes générations, enfin les générations de jeunes étudiants aujourd'hui, ils sont armés des outils de féministes, des question comment c'est une structure qui freine et pas juste, voilà, enfin j'ai l'impression que ça a beaucoup changé, ce qui fait qu'on a une capacité de prendre en main ces aspects-là de manière beaucoup plus large et plus nombreuse, quoi. Du coup, ça se voit plus.
Complètement. Et moi, j'ai envie encore de revenir sur les réseaux sociaux qui ont une large part de démocratisation d'une parole féministe, d'une parole qui se lève contre les discriminations et le sexisme. Ça contribue énormément à former les nouvelles générations. Enfin, moi, je me rappelle, enfin, je sais pas si tu te rappelles, Marion, que quand au début, on s'est affiché tenace, on avait un petit peu peur d'être stigmatisé, d'être pointé du doigt, d'être précarisé, d'être un peu...
Peur d'un backlash.
Oui, complètement, le backlash, complètement. J'ai senti vraiment, personnellement, même moi dans mon métier, je ne parlais pas de mon activisme, hein, je le silenciais complètement et je verrouillais bien tout, je faisais très très attention, parce que j'avais vraiment peur même de perdre des boulots, des emplois. Vous savez qu'on est précaire, hein, donc c'est compliqué, donc on protégeait énormément. Après MeToo, il y a un truc qui s'est passé quand même, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et aujourd'hui, moi, je vois la jeune génération, enfin, vous êtes toutes féministes. Enfin, pour vous, c'est même de fait, c'est évident. Mais pour nous, c'était compliqué, vraiment, de l'afficher. Ouais. Moi, j'ai été à des soirées, c'est personnel, où je me suis fait cracher au visage parce que j'étais activiste. À l'époque, être activiste féminine, il y a 9 ans, c'était se clouer au pilori, vraiment. C'était extrêmement dangereux. J'avais des gens qui me crachaient au visage, vraiment. C'est pas tout aussi simple, mais c'est différent. Disons que j'ai d'autres rapports avec les gens, quoi. Je suis plus problématique dans une soirée, dans une émission, dans un spectacle. Je suis plus problématique parce que j'ai cette posture.
Les question d'égalité entre les personnes ont encore un long chemin à parcourir à chacun et chacune de nous emparer activement de ces sujets.
Avec les équipes Radio Caravane, ça fait longtemps que nous donnons la parole à toutes et à tous les acteurs et actrices du monde du cirque.
Venez écouter et réécouter tous nos podcasts, émissions et interviews complètes sur nos réseaux et notre site radiocaravane.net. À bientôt.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle. Proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Yves Assemble Studio,
un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.